Bonjour, je suis Julie Guertin et je vous souhaite la bienvenue sur Découvre, Ose et Deviens, le podcast qui éveille votre curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? Brigitte est assistante familiale et accueille des enfants retirés à leurs parents pour les extirper de situations plus complexes les unes que les autres. Brigitte nous livre avec beaucoup de pudeur et de sincérité le quotidien de son métier. Mais comment considérer ça comme un métier quand ça touche à des enfants qui vivent à vos côtés au quotidien, qui intègrent votre foyer et arrivent avec leur bagage très lourd et les troubles qui vont avec? Comment les aider du mieux possible à retrouver le droit chemin, à se construire en tant qu'adulte autonome et équilibré, et puis casser le cercle infernal de reproduction du schéma dans lequel ils ont vécu? Voilà les tas de problèmes que doivent résoudre les assistantes familiales. Tout cela avec certes des outils, des formations, mais je dirais surtout ses petits bras, son cœur, beaucoup d'écoute, beaucoup de dialogue et une ouverture d'esprit comme jamais pour comprendre ses enfants, s'adapter à eux tout en leur donnant un cadre solide et des repères pour la suite. Pas facile. À la fois tata, maman de transition, maman de cœur, mais aussi parfois voleuse d'enfants pour certains parents. Je vous présente Brigitte, à qui je tire mon chapeau bas pour tout ce qu'elle a fait. Je vous souhaite une très bonne écoute. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir, alors petit 5 étoiles plein les yeux, le partager aussi à votre entourage. Allez, c'est parti! Bonjour Brigitte!
Bonjour Julie!
Je suis vraiment ravie de te rencontrer et puis que tu aies accepté de nous ouvrir les coulisses de ton métier d'assistante familiale. Et j'en profite aussi pour faire un petit coucou à ton fils Romain qui a permis qu'on se rencontre aujourd'hui. Donc je le remercie aussi. Brigitte, avant qu'on rentre dans le détail de ton métier, j'aime toujours en fait comprendre ce qui peut expliquer dans ton parcours, ton caractère, ton histoire aussi, ce qui a pu t'amener à devenir assistante familiale.
Alors Julie, je pense que je suis arrivée à ce métier-là après que mes enfants soient grands et autonomes, parce que j'avais envie de continuer à me faire passer des messages qu'on pouvait élever, je n'aime pas ce mot, mais qu'on pouvait donner à des enfants de l'amour et puis autre chose que ce qu'ils avaient vécu. Et c'est en rencontrant une famille d'accueil que j'ai pensé que c'était bien pour moi.
Et alors, une fois que tu as eu cette idée, alors quelles sont les étapes à franchir? Je crois qu'il y a des agréments, il y a des formations à suivre.
Alors effectivement, il faut s'inscrire au conseil départemental de sa région. Et puis après, on nous oblige à faire une formation. Alors la formation dure 18 mois. Et elle a changé parce que moi, effectivement, ça fait plus de 20 ans que j'ai exercé. Je suis en retraite, mais j'ai exercé ce métier-là pendant 20 ans. Et il y a 20 ans, c'était un peu différent que maintenant. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais aujourd'hui, il faut toujours faire une formation au sein du conseil départemental en rencontrant des autres familles d'accueil, des psychologues, et puis le côté aussi administratif de ce travail.
D'accord, donc on vous explique un peu comment ça va se passer, ce que vous aurez à faire, votre rôle, etc. quoi.
Après, il y a aussi des cours de pédagogie, de psychologie, il y a énormément de choses, c'est très varié par petits groupes. Et puis, vous avez un enfant très rapidement, parce qu'il y a une demande forte, très forte d'assistante familiale, et souvent, vous avez un enfant avant d'avoir fini la formation. La plupart du temps, maintenant, vous avez un enfant très rapidement.
D'accord, la demande est tellement importante, quoi. Et est-ce qu'il y a des agréments différents en fonction, je ne sais pas, de l'âge des enfants ou de leur type de pathologie ou enfin, en tout cas de problèmes qu'ils peuvent avoir rencontrés?
Alors, les enfants, par rapport à l'âge, nous les avons aussi par rapport à notre âge. Donc, on peut très bien avoir des enfants, si vous êtes jeune, des petits, des nourrissons. Et puis aussi, si vous êtes plus âgé, on vous donnera des adolescents.
Ah oui, d'accord.
C'était ça votre question, Julie.
Et est-ce que cette formation, est-ce qu'elle continue au fil du temps? Je veux dire, est-ce que tu as accompagné pendant toute ta carrière pour, je sais pas, des mises à niveau, pour être sûr que voilà, qu'il y ait des nouvelles difficultés qui surgissent, et ben tu vas être accompagné et formé sur ces sujets-là ou pas?
Alors, le conseil départemental propose d'être accompagné par une psychologue qui organise des réunions avec effectivement à chaque fois un thème différent. Et puis aussi, on a des formations obligatoires avec toujours des thèmes différents. Alors, le conseil départemental propose différents thèmes et pendant 5 jours, nous allons à des formations pour écouter des personnes qualifiées qui expliquent. Alors, les formations peuvent être sur la violence, sur le viol, sur l'alcool, sur la drogue, etc.
Ok. Et quand tu as décidé de devenir assistante familiale, comment ton entourage a réagi? Alors, ton entourage, aussi bien tes enfants d'ailleurs, qui étaient grands, que ton autre cercle familial, je ne sais pas, ton entourage, tes amis, comment ils ont réagi?
Alors, en fait, ça dépend beaucoup des gens. Alors, personne ne m'a rien dit, bien sûr, mais effectivement, on pouvait sentir une certaine réticence suivant les personnes. Alors, mes enfants étaient partis, donc moi, j'aurais pas fait ce métier-là personnellement et que mes enfants, ou tout du moins des petits-enfants, parce que je pense que c'est très dur, et j'encourage peut-être les mamans aujourd'hui à tenir le coup, mais mon entourage, c'était difficile, mais j'ai bien vu qu'il y avait des familles où je ne pouvais pas amener les enfants, et d'autres familles qui les accueillaient au contraire à bras ouverts.
Mmh. Oui, c'est ça qui est intéressant. Bon, ça fait partie effectivement de mes questions, c'est aussi dans la vie quotidienne. Ok. Alors, les enfants, en général, ils arrivent à quel âge? Tu les as eus, ils peuvent arriver très jeunes ou en général, c'est plutôt au contraire des ados?
Oui, non, avec ce que je connais, les enfants, effectivement, peuvent arriver très jeunes. Moi, je n'ai pas eu de nourrisson, mais par contre, j'ai des collègues qui ont eu des nourrissons. Alors, ils passent par la pouponnière et à la pouponnière, au bout de temps, quelques mois, ils peuvent effectivement placer un enfant, ou pour 8 jours, ou pour des années. Et ça, on ne sait jamais.
D'accord. Et toi, le plus jeune âge que tu, l'enfant le plus jeune que tu aies pu accueillir?
Alors moi, le premier est arrivé quand il avait 4 ans.
D'accord. Oui, donc c'est très jeune aussi quand même.
Alors c'est très jeune. Il avait été placé avant dans une autre famille d'accueil où ça se passait pas bien du tout. La famille d'accueil avait du mal de comprendre ses réactions violentes. Et puis avant, il était effectivement à la pouponnière parce que la pathologie de sa maman ne pouvait pas. On ne pouvait pas le laisser à sa maman dès la naissance. Donc, il a été tout de suite placé en pouponnière, après dans une famille d'accueil et après chez moi où il est resté jusqu'à ses 18 ans.
Ah ben justement, alors jusqu'à quel âge il reste en fait?
Alors, ils peuvent rester jusqu'à 18 ans. Et après, ils peuvent aussi, s'ils ont des études ou s'ils font une formation, on peut aussi avoir la possibilité de les garder jusqu'à la fin de leurs études.
D'accord, ok. Oui, parce que, bon, effectivement, 18 ans, je vois nos propres enfants, ils ont encore besoin d'une famille, quoi.
C'est d'ailleurs très jeune. Et je crois qu'il y a une association qui essaye de défendre le fait qu'on puisse les laisser partir à 18 ans. Parce que souvent, les enfants en difficulté à 18 ans sont très contents de partir et ils partent pas toujours avec de bonnes bases, bonnes conditions, et etc.
Ouais. Donc ça pourrait être important de les garder un peu plus longtemps pour leur donner un peu plus de stabilité, de repères, quoi.
Effectivement.
Ok. Et donc, en moyenne, il reste combien de temps? Je veux dire, est-ce que c'est vraiment, tu t'installes dans une relation longue? Ou bien au contraire, ce métier-là t'amène à avoir des enfants, beaucoup, mais pas très longtemps?
Alors, on ne le sait pas d'avance. Alors, évidemment, je parle en mon nom, hein, parce que ça peut être différent d'un endroit ou d'un cas. Mais on ne sait pas toujours d'avance. J'ai eu 2 enfants qui sont venus, qui ont été placés pour 8 jours, m'a-t-on dit, sont restés 3 ans. En fait, on peut pas toujours le savoir. Il y a toujours une relation qui reste avec la maman. Donc, ils voient, la plupart du temps, ils voient toujours leurs parents, si c'est possible, évidemment. Donc, ils ont des droits de visite à leurs parents. Et suivant l'évolution des parents, suivant la pathologie et tout ça, ils repartent ou très tôt ou pas du tout. Ou de 3 ans, ou ça, on peut pas le savoir d'avance. Mais bon, nous, on connaît à peu près le profil des parents, et effectivement, on se dit souvent qu'on va les avoir longtemps. Celui qui avait 4 ans, je savais que de toute façon, il ne pouvait jamais retourner avec sa maman.
Donc, parce que ça doit être compliqué, en sens inverse, si tu ne sais pas combien de temps ils vont rester. J'imagine que tu adaptes beaucoup, je sais pas, la façon d'aborder l'enfant, même peut-être ton énergie ou en fonction de la durée. Je veux dire, si il reste 8 jours, 3 mois ou 10 ans, c'est pas du tout la même histoire et du coup pas du tout la même, j'imagine, méthode aussi. Enfin, j'en sais rien.
Alors dans mon cas, si on sait qu'ils sont là pour 8 jours ou 15 jours, moi je considère qu'ils sont là comme des enfants en vacances. Voilà, donc je ne m'investis pas effectivement de la même façon. Ils sont là en vacances, c'est des vacances, pas des vacances. C'est un beau grand mot hein, pour eux. Et puis s'ils sont là pour plus longtemps, effectivement, je m'investis d'une autre façon.
Ouais, tout à fait. Ok. Et alors dans quel contexte en fait ils arrivent? Parce que je voudrais comprendre en fait qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on décide de placer ses enfants en famille d'accueil, mais il y a un truc que je voudrais aussi éclaircir avec toi, c'est on les place en famille d'accueil et parfois pour toute leur vie, quoi, enfin en tout cas tant qu'ils sont mineurs, et pourtant, pour autant, ils ne sont pas adoptables en fait, puisqu'ils restent, leurs parents restent leurs parents. Alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on décide de les placer en famille d'accueil?
Alors, on les place en famille d'accueil pour leur éviter effectivement beaucoup de... Enfin, ça dépend des cas, c'est très vaste hein, pour répondre à cette question. Il y a des maladies où l'enfant ne peut pas rester, comme j'expliquais tout à l'heure pour ce garçon que j'ai eu à 4 ans, il ne peut pas rester avec sa maman, son papa, c'était inconnu, donc il ne peut pas rester avec sa maman. Donc ça, on le sait, cette maladie-là, on place les enfants. Bon, ça, c'est un exemple. Il y a aussi d'autres cas où on place les enfants en pensant, en aidant effectivement la famille pour qu'ils sortent de leurs problèmes. Alors, leurs problèmes, c'est quoi? C'est l'alcool, c'est la drogue, c'est la violence. Voilà, c'est déjà pas mal. Ou alors la maladie. Si des enfants dont la maman tout d'un coup est par exemple, je vais donner un exemple, paralysée, elle vit toute seule, elle ne peut plus s'occuper de son enfant, l'enfant va être placé. Et effectivement, on ne peut pas savoir d'avance comment les parents vont agir par rapport à ce placement. Alors effectivement, c'est peut-être très rare, je ne connais pas du tout les statistiques. Est-ce qu'il y a beaucoup de parents qui s'en sortent par rapport à l'alcool, la drogue, etc. et la violence? Et puis, il y a aussi le fait que ces enfants-là repartent, font des essais, effectivement, souvent avec leur famille. Et comme ça n'a rien changé, rien n'a changé, ils reviennent. Alors, voilà pourquoi les enfants sont placés, on ne sait jamais pour combien de temps. Voilà, sauf certaines maladies, où on sait qu'ils ne pourront jamais retourner, on ne les laissera jamais parce qu'ils seront en danger. Voilà. partir, oui.
Non, pardon. Et pour autant, Brigitte, du coup, ce que je comprends, c'est quand même, par exemple, cet enfant, tout le monde savait qu'il ne repartirait pas avec sa maman parce qu'elle était malade, mais pour autant, il n'est pas adoptable.
Alors voilà, donc ça c'est la deuxième chose. Effectivement, il n'est pas adoptable puisque les parents ne sont pas déchus de leurs droits. Certains parents sont déchus de leurs droits parentaux, mais c'est beaucoup d'enfants, les parents ne sont pas déchus de leurs droits. Donc, ils ne sont pas adoptables. Ou alors, ils deviennent adoptables si les parents, je crois, ne pas me tromper, si les parents sont déchus de leurs droits, ou alors si les parents, si les parents meurent tous.
Oui, bien sûr.
Voilà. Hein, y a des cas où effectivement, moi j'en ai un où il a plus de famille. Voilà, ils sont tous morts. Donc effectivement, lui, il pouvait être adoptable, mais quand ses parents sont morts, il avait plus de 18 ans. Donc après.
Oui, il n'y avait plus le même enjeu, quoi. J'ai lu en fait également que certains enfants pouvaient être placés aussi en famille d'accueil et étaient en situation de handicap.
Oui, tout à
genre
fait.
Mental ou moteur, c'est le cas.
Voilà, oui, c'est effectivement. En dernier placement, avant que je sois en retraite, j'ai eu une jeune fille qui a été placée à 12 ans. Elle est partie à ma retraite, elle avait 18 ans. Et elle a été placée, mais elle avait un handicap mental. Elle avait un petit handicap. Elle était placée dans une institution. Et là, il y avait un travail intéressant avec elle. C'est d'essayer de la faire évoluer tout le temps. Et alors que, bon, j'aime pas trop critiquer les systèmes, mais alors que dans un IME, on peut pas s'occuper d'enfants individuellement. Donc ça va beaucoup moins vite. Alors qu'à la maison, elle progressait beaucoup plus vite.
Oui.
Voilà. Donc on peut effectivement avoir des enfants handicapés. Après, on nous force pas. Il faut savoir que on nous force jamais à prendre tel ou tel enfant. On nous propose un enfant. Et si on pense que cet enfant, c'est trop difficile pour nous ou trop lourd, on peut aussi expliquer qu'on n'en veut pas.
Ouais, ok. Pour jamais que vous, ne pas vous mettre vous-même en difficulté.
Voilà, exactement. Parce qu'il y a aussi des familles d'accueil aussi qui donc prennent des enfants avec leurs propres enfants. Donc, si vous avez des handicaps très lourds ou trop lourds ou des pathologies trop lourdes, parce qu'il faut savoir que ces enfants sont en souffrance. Et qu'ils sont souvent très difficiles, très difficiles. Ils veulent aussi l'exclusivité. Donc, si vous avez des enfants en bas âge, etc., et que vous passez votre temps à vous occuper de cet enfant-là, qui demande énormément, effectivement, vos enfants sont en souffrance la plupart du temps. La plupart du temps.
Ok. Alors, au quotidien, est-ce que tu peux nous décrire ton rôle vis-à-vis de ces enfants ? Quelles sont tes actions qu'est-ce que tu dois faire auprès d'eux ?
Je pense que c'est un choix personnel. On ne nous dit pas vous devez faire ci, vous devez faire ça. Sauf que, bon, effectivement, dans la pratique, on doit les emmener chez le psy, on doit les emmener à une visite à la mère, on doit les emmener aussi bien à la visite si la mère est en prison, à la prison, ou si le père est en prison, à la prison. On doit les emmener à des rencontres familiales, voir la grand-mère, voir tout ça, ça demande beaucoup de temps.
Mais au-delà de ça, au quotidien, tu les gardes aussi, quoi. Donc ça veut dire que tu es aussi, comme tu as fait avec tes propres enfants, l'école, les devoirs, les dîners.
Tout à fait. Comme avec ses propres enfants, effectivement.
Et est-ce qu'il y a aussi des notions d'action administrative ou juridique, par exemple, que tu dois être amené à faire, en fait ?
Alors, quand j'ai débuté, c'était tout sur papier. Alors, il demande toujours des autorisations pour tout, parce qu'ils partent du principe où l'enfant est assuré par le conseil départemental. Donc, on a des règles. On doit les emmener dans notre voiture. On doit pas les mettre dans des autres voitures. Alors ça, c'est une généralité, mais bon, effectivement, on peut pas toujours respecter ça. mais ils partent du principe qu'ils sont assurés pour un placement chez, dans une famille. Alors, si par exemple, ils veulent aller faire une soirée pyjama chez la voisine, ça devient compliqué. Il faut faire un papier, il faut prévenir l'éducatrice. Il y a des démarches administratives. Alors, aujourd'hui, tout se fait sur l'ordi. Alors, c'est bien, tant mieux, mais il faut quand même un certain temps pour demander plein de choses. Il faut, vous êtes dans le métier par rapport à ce qu'on gagne. Il y a aussi des kilomètres. Il faut marquer ses kilomètres. Si vous emmenez un enfant voir sa maman, il faut marquer vos kilomètres. L'aller-retour, voilà, le jour, etc. Bon, ben, faut le rentrer sur l'ordi aujourd'hui. Il faut marquer s'il va chez le psy, vous êtes remboursé de vos kilomètres. Il faut, s'il va en colonie, il faut faire des papiers pour la colonie. En fait, il y a quand même pas mal d'administratifs, surtout si vous avez 3 enfants. Si vous en avez 1, ça va peut-être plus vite, mais si vous en avez 3, c'est aussi une charge, oui.
Ouais, ça multiplie tout par 3, quoi. Et effectivement, j'avais pas en tête toute cette partie administrative, mais justement, j'avais une question par rapport à ça. Quel statut tu as ? Parce que chaque jour, nous, en tant que parents, vis-à-vis de nos enfants, on signe un bulletin scolaire, on signe un mot du prof. S'il doit être hospitalisé, on signe une décharge. Tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je sais pas, tu refais les papiers de carte d'identité, tu dois signer en tant que tuteur. Donc, comment toi, tu... Quelle est ta place par rapport à tout ça? Parce que ce sont des actions au quotidien que tu dois mener.
Alors normalement, j'ai bien dit normalement, nous n'avons pas l'autorisation puisque les parents ont leurs droits, ils ne sont pas déchus de leurs droits. Donc nous n'avons aucun droit de signer à leur place. Alors, je peux peut-être m'avancer en disant que moi j'ai souvent signé, j'étais dans l'illégalité. Parce que c'était, je dis pas urgent, mais quand on vous demande de signer un papier pour l'école et que voilà, la mère est pas disponible, qu'il faut appeler l'éduc, qu'il faut attendre 8 jours, etc. C'est souvent trop long. Donc pour les écoles, moi la plupart du temps, je signais. Voilà. Mais autrement, non. Pour tout le reste, que ce soit les cartes d'identité, que ce soit la demande pour aller en colonie, il faut que la mère soit d'accord. Alors, je parle souvent de la mère, hein, ou le père, hein, effectivement, le père ou la mère soit d'accord. Et puis, ça nous demande, et aussi, comme vous dites, de l'énergie et du travail, oui, c'est certain.
Ça, je veux bien croire. Ça, ouais. Et alors, donc ils font partie quand même de la famille, hein, parce qu'au quotidien, ils vivent avec toi. Jusqu'où va, en fait, cette place dans la famille? Je veux dire, est-ce que, par exemple, quand tu pars en vacances, est-ce que ces enfants-là partaient en vacances en même temps que toi? Est-ce que tu invitais effectivement à dîner? Tu nous en as un peu parlé tout à l'heure, en week-end. Je ne sais pas, est-ce que les enfants viennent avec ces enfants-là, viennent avec toi?
Non. Moi, j'ai toujours voulu... Non pas penser que j'allais faire comme mes enfants, mais si quand même qui faisait partie de la famille, et je ne pouvais pas dire moi je fais ça et eux c'est pas possible qu'ils nous voient partir et qu'on les emmène pas. Donc moi je les ai toujours emmenés en vacances. Alors peut-être pas sur au niveau de l'adolescence parce qu'ils étaient c'était des périodes très très compliquées, très dures. Mais autrement, je les ai toujours emmenés en vacances. Mais aujourd'hui, le métier a aussi évolué. Je pense que les jeunes mamans, elles voient le métier différemment. C'est un travail où on n'est pas obligé de les emmener en vacances, où on peut les mettre dans d'autres familles d'accueil. Aujourd'hui, je crois que les familles d'accueil sont obligées de prendre des vacances. Par exemple, j'ai une jeune maman qui a repris Marie, qui s'appelait une jeune fille que j'avais, qui s'appelait Marie parce que justement, elle est en retraite. Eh bien, elle était enceinte et elle a été obligée de prendre son congé de maternité. Donc, cette petite Marie a été mise dans une autre famille d'accueil pendant son congé de maternité. Et ça, avant, il y a 20 ans, il y a 15 ans, c'était moins comme ça. C'était plus, on avait les enfants avec nous et on faisait comme ses enfants.
Et c'est vrai que moi, là où je suis partagée, c'est qu'à la fois, je pense qu'il y a un vrai besoin de protéger les familles d'accueil pour pas qu'elles soient usées, qu'elles soient fatiguées. Elles ont aussi le droit à avoir une vie. Et en même temps, je me place du côté des enfants. C'est déjà dur de s'adapter dans une famille d'accueil. Et il faut te réadapter pendant 3, 4 mois, 6 mois. Ça doit être vraiment compliqué dans les deux sens. Parce que quand elle revient dans l'ancienne famille d'accueil, ça doit être compliqué aussi de voir que tu as été mis de côté pendant le congé maternité de la personne qui t'accueille, quoi.
Et tu sais, je dis, j'ai vu des émissions, c'est voilà, avant d'être interviewée. Et il y avait quelques émissions à la télévision où effectivement, ça m'a frappée, mais je m'en doutais. Tous ces gens qui racontaient leurs problèmes et avaient ce syndrome d'abandon et qui vous suit toute votre vie. Mais voilà, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Mais ils ont le syndrome d'abandon. Et ça, c'est pas facile. Parce qu'ils sont régulièrement abandonnés. Ils pensent qu'ils sont toujours abandonnés. Abandonnés par la famille, abandonnés par une famille d'accueil parce qu'elle part en vacances, c'est pas eux. Enfin, et ça, c'est très dur. Et tous ces enfants qui étaient interviewés à ces émissions, souvent ils disaient oh, mais j'ai tellement fait de famille d'accueil. Voilà, et pourquoi aussi? Parce qu'il y a des familles d'accueil où ça se passe très mal, pour X raisons, hein, parce que l'enfant est pas sage, parce que la famille comprend pas ses réactions, parce qu'il faut tenir le coup aussi, hein. Moi, j'ai eu une jeune fille où c'était très dur parce qu'elle est passée par la drogue, par l'alcool, par les scarifications, par les fugues à répétition. Quand vous pouvez imaginer que quand ils font des fugues, on les cherche pendant des heures et des nuits pour savoir où ils sont. Effectivement, c'est un métier qui est assez difficile, hein, voire très difficile.
Ouais, ouais. Bon, ça justement, on va en parler effectivement. Tu dirais que je pense qu'en fait, quand ils arrivent dans une famille d'accueil, j'imagine que y a toute une phase en fait d'intégration, d'adaptation quand ils arrivent chez toi. Est-ce qu'ils ont tous le même comportement, tu vois, au démarrage? Je sais pas, justement, de méfiance, de rejet, ils te testent pour voir si tu vas pas de nouveau eux les abandonner, tu vois. Est-ce que toi tu as pu constater que il y avait toujours un peu le même comportement et les mêmes phases d'adaptation?
Alors je pense qu'ils n'ont pas tous le même comportement, ça c'est certain, mais par contre on retrouve presque tous, moi j'en ai eu 11 pendant 20 ans. Donc on retrouve tous le test, on va tester, voilà. Alors ça, on nous teste. Et souvent je leur disais, bon, vous êtes en train de me tester. Voilà. Mais autrement, non, ils n'ont pas tous le même comportement. Alors ils nous testent de différentes façons, hein, Julie, c'est certain, quoi. Voilà, ils vont nous tester en faisant, en nous volant par exemple de l'argent, et voir pour voir notre réaction. Donc en fait, ils nous testent très très souvent.
Et qu'est-ce qu'ils veulent tester? Ils veulent tester le fait que tu...
Eh bien, de voir si on va les abandonner à nouveau par rapport à ce qu'ils sont. C'est ça qu'ils veulent tester. Voir si on va les rejeter, quoi, une fois de plus.
Et alors, tu parlais aussi d'exclusivité. C'est des enfants, j'imagine, qui demandent beaucoup d'attention parce qu'ils n'en ont peut-être pas eu suffisamment. Ça aussi, c'est un point commun chez tous les enfants que tu reçois?
Alors, moi, c'était facile puisque je n'avais que ma fille qui était grande quand j'ai commencé ce métier. Mais dans les jeunes mamans, elles rencontrent ça presque toujours. L'enfant demande l'exclusivité. Donc, et ils font tout pour que cette maman les regarde sans arrêt. Donc c'est tout et éventuellement n'importe quoi.
Ouais, c'est ça.
Ça peut être je casse tous les jours volontairement, je hurle, je n'accepte pas que tu regardes ta fille parce que pendant ce temps-là, bah, je fais une bêtise parce que tu m'as oublié. Donc oui, c'est souvent comme ça. C'est presque toujours.
Donc c'est quand même super important d'y être préparé, quoi. Alors, moi j'ai aussi plein de petites questions aussi par rapport à la famille naturelle, enfin biologique. Tu disais tout à l'heure que tu étais donc en contact, hein, puisque tu, par exemple, tu amenais les enfants en visite chez leur famille biologique, que ce soit la maman, le papa ou les grands-parents d'ailleurs, tu citais tout à l'heure. Comment ça se passe et quel regard ils portent sur ton propre travail? Est-ce que je veux dire ses parents et cette famille, ils t'en veulent? Comment ils te considèrent? Est-ce qu'ils ont peur que tu leur voles leur enfant, que tu sois mieux qu'eux? Enfin, tu vois.
Alors j'ai eu les deux, Julie. J'ai eu les deux. En fait, j'ai eu les enfants, les parents, et ils me téléphonent encore. Encore hier, j'ai eu une maman. Oui, Brigitte, c'est grâce à vous, c'est grâce à vous. Alors, mais ça fait 20 ans qu'elle me dit ça, que mon fils est comme ci, comme ça. Bon, alors j'ai ça, on a de la reconnaissance souvent. Et puis j'ai eu aussi une famille où c'était tout le contraire. Voilà. Donc la famille d'accueil était des voleurs, les voleurs de leurs enfants. Alors là, c'était très difficile, hein, bien sûr. C'était difficile. Les rencontres étaient difficiles. Alors moi, je déposais l'enfant pour voir sa maman et son papa dans un centre, avec accompagnée toujours d'une éducatrice. Et puis, on m'avait prévenu, surtout bonjour, au revoir, et c'est tout, parce que là, c'est autrement, c'était pas possible. Le dialogue était absolument impossible. Bon, mais de toute façon, quand les enfants vont voir leurs parents, nous, on reste pas là. Hein.
Oui, bien sûr, j'imagine que c'est un moment d'intimité, quoi. Mais je me demandais juste, effectivement, quelles étaient les relations. J'imagine que ça doit être un peu compliqué. J'ai pu lire aussi des articles où, comme ils ont un droit, en fait, sur beaucoup de choses, puisqu'ils ont encore... ils sont encore tuteurs en fait, mais ça va assez loin, quoi. J'ai vu qu'en fait, par exemple, tu n'as pas le droit de modifier, on va dire, l'apparence de l'enfant. Donc, ce qui signifie très concrètement que, par exemple, si tu dois les emmener chez le coiffeur, potentiellement, les parents peuvent refuser.
Oui. Alors effectivement, cette famille d'accueil là, un jour, j'avais fait couper les cheveux à leur fille parce qu'elle était remplie de poux le jour où je l'ai accueillie. Donc effectivement, c'était plus possible et elle avait beaucoup de problèmes dans ses cheveux. Donc j'ai dit, le mieux c'est qu'on aille faire couper les cheveux. Et la famille d'accueil s'est révoltée auprès de l'éducatrice parce que moi je partais vite justement pour pas avoir les foudres de ces parents-là, parce que effectivement ils peuvent se révolter pour tout et rien.
Et comment tu gères ça? Parce que toi tu mets beaucoup d'énergie. Tu vois, à faire en sorte que cet enfant, il ait l'enfance la plus normale, que tu vois, potentiellement même que tu puisses réussir à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'échec scolaire, etc. Et tout d'un coup, tu sens que tu as les parents qui sont derrière, qui mettent des bâtons dans les roues. Ça doit quand même être super compliqué à gérer ça.
Moi, ça, personnellement, ça ne m'a pas posé de problème. Je pense que ça doit poser des problèmes à certaines familles d'accueil. Ça, je le reconnais. Personnellement, non, ça ne m'a pas posé de problème. Je savais un peu parce que il y a 20 ans aussi, il y a si on repart en arrière, on nous disait pas, on nous expliquait pas la pathologie des parents. Et moi, ça m'embêtait beaucoup parce que à partir du moment où on connaît la pathologie, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails, mais leurs problèmes aux parents, on peut effectivement s'adapter. Mais c'était assez caché, c'était assez... Alors effectivement, si on connaissait pas la pathologie, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Mais il faut savoir que quand on déposait l'enfant et qu'on avait... l'éducatrice nous disait, attention Brigitte, il va falloir faire attention parce qu'il aurait fallu demander aux parents. Voilà, ces parents-là sont très procéduriers. Donc il faut faire vraiment attention et respecter les règles. Bon, je respectais les règles, mais c'est tout. Mais ça ne me posait pas vraiment, vraiment de soucis, quoi.
Bah, tu vois, moi, je trouve que ça rejoint une question que je me suis posée, c'est comment tu gères, en fait, la distance vis-à-vis de ces enfants, parce que tu dois à la fois t'investir énormément, sinon tu ferais pas ce métier, et en même temps, tu peux pas tout contrôler, parce que justement, ces enfants-là, ils ont une histoire, une famille, et c'est cette juste distance, je trouve, qui doit être super compliquée, cette juste distance, et puis ce niveau d'investissement. Parce que tu dois pas non plus te laisser complètement embarquer dans leur histoire, parce que toi tu dois rester forte pour les autres enfants, pour toi-même. Donc je trouve que c'est moi c'est un point qui me questionne beaucoup.
Oui, effectivement. Alors donc comment gérer ça? Alors quand on est novice dans le métier, on voit pas les mêmes choses qu'au bout de quelques années, hein, c'est certain. Comme dans tout métier, je pense aussi. Mais je sais qu'il y avait des enfants avec lesquels je pouvais m'investir et puis avec d'autres pas. Et leur faire comprendre que j'étais toujours là pour eux, mais pas en tant que maman, puisqu'ils avaient leur maman. Voilà. Mais en tant que personne qui était disponible et qui pouvait effectivement faire tout le chemin avec eux, ce chemin difficile. Mais bon, c'est pas toujours possible. Je pense qu'il y a des familles d'accueil où ils gèrent pas de cette matière-là. Moi, j'avais envie de le faire pour X raisons par rapport à mon enfance, par rapport à mon écoute, par rapport à ce que je suis tout simplement. J'avais envie de le faire, j'avais envie de m'investir, j'avais envie de comprendre, j'avais envie de savoir. Mais et voilà pourquoi je l'ai fait pour certains enfants, mais j'ai pas pu le faire pour tous. Il y a des enfants où je savais que c'était déjà ou peine perdue, ou des enfants où ça n'avait aucun intérêt parce que ça changerait rien mon investissement. Mais je l'ai quand même fait d'une façon ou d'une autre mon investissement. Hein, de toute façon, bon, je l'ai fait pour. On sait aussi que les enfants qui sont placés souvent sont en échec scolaire. Effectivement. Ils étaient, quand je les ai eus, tous en échec scolaire. Donc, on a su aussi, avec mon mari, comprendre avec qui on pouvait s'investir par rapport à l'école. Savoir avec qui on pouvait s'investir. Et on l'a fait. Mais sur 11, il y en a un seul qui a participé ou qui a accepté tout simplement notre aide. Voilà. Lui, bon, voilà, il a eu le bac, il a eu un BTS. Alors, maintenant, il travaille dans une banque à Paris. Donc, effectivement, mais c'est très, très rare. Leur histoire est tellement dure, tellement compliquée qu'elle leur investit complètement leur tête.
Mais c'est super important ce que tu dis, Brigitte, parce que je pense qu'on peut aussi faire ce métier-là avec l'impression qu'on va sauver le monde. Et je pense que, enfin, quand je dis sauver le monde, c'est sauver les enfants, mais tu vois, vraiment, avec beaucoup de volonté, hein, quand je dis ça, mais aussi peut-être sûrement beaucoup de naïveté. Et en fait, je pense que si tu intègres pas cette notion d'échec, c'est-à-dire que tu ne peux pas tout faire, pour sauver ses enfants, je pense que c'est hyper salvateur, mais c'est essentiel.
Oui, on sait normalement avec qui, jusqu'où on pourra aller.
Ok, et oui. Vis-à-vis de ses enfants, Brigitte, en fait, t'as quelle place? Tu vois, alors c'est tout bête, mais ils t'appellent comment?
Alors, moi c'est Bri-Bri, la plupart des enfants m'appellent Bri-Bri. Voilà, alors j'en ai deux, trois qui m'appellent tout le temps, deux fois par jour, qui viennent, qui téléphonent en disant « Mais Bri-Bri, j'ai besoin de toi, t'es ma maman de voilà, parce que celui qui est orphelin, mais j'ai plus que vous. » Des cris de désespoir, « J'ai plus que vous. T'es ma maman, j'ai besoin de toi. Aide-moi, enfin, etc. » Et il téléphone toujours, où il met un message en mettant « Ma Bri-Bri ». Voilà, alors ça, c'est parce que il a besoin de nous. Alors, il a 27 ans, hein. 27 ans, mais il a tout le temps besoin de nous. C'est-à-dire, besoin de nous, ils savent. Moi, je leur ai dit qu'ils avaient besoin de nous, mais que c'était pas pour que je leur donne des bidets. C'était pour qu'on leur donne des conseils, c'était pour qu'on les aide à des démarches. c'était pour qu'éventuellement on les accueille à nouveau s'ils étaient s'ils avaient des difficultés, mais qu'on n'acceptait pas certaines s'ils continuent à rester dans, comment on pourrait appeler ça, je dis à rester des enfants qui cherchent pas à s'en sortir. Effectivement, il y a un moment où on va pas.
Ouais, t'es pas censé. Ton rôle, c'est pas de les assister à vie, c'est de les rendre autonomes et d'être là pour eux, pour gérer les virages, quoi.
On est là pour eux, pour avoir des liens affectifs en premier, et après les aider. Il y en a un, il veut faire une formation commerciale, on va l'aider à trouver, un stage, on va l'aider à faire des papiers, on va l'aider, etc. Bon, il y en a une autre, elle a besoin de parler, comme ça va pas, elle va m'appeler pendant des heures à n'importe quelle heure, voilà. Donc elle va parler.
Allô SOS Brigitte, quoi.
Allô SOS Brigitte, et puis quand je sais que au bout d'un certain temps, mais souvent ça met un an, deux ans, ce que je lui demande de faire, d'aller voir un psychologue, un psychiatre tout le temps, parce qu'ils auront toujours besoin de cette démarche, et elle va m'écouter au bout de deux ans. Je me dis, ouf, elle m'a écouté, c'est bien, c'est super. Voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Et puis il y a des enfants, non, c'est pas possible. Il y en a une, elle vient de me rappeler, elle a trouvé évidemment par les réseaux sociaux comment m'appeler, et elle avait envie de me revoir, alors que ça fait des années que je suis pas avec. Voilà, elle avait envie de me dire qu'elle avait un beau parcours, qu'elle s'en était sortie, et qu'elle allait bien, qu'elle avait un mari et puis qu'elle avait un enfant. J'ai trouvé ça génial.
Ah, tu m'étonnes, quel beau cadeau.
Oui, c'est des beaux cadeaux. Mais c'est un beau métier, mais c'est tellement dur.
Et les enfants, quand ils arrivent, Brigitte, est-ce que quelle relation ils ont ? Enfin, moi, je me posais la question s'il n'y avait pas aussi une phase où ils pouvaient te détester parce qu'avec un conflit de loyauté vis-à-vis de leurs parents. En gros, t'es celle qui, mais de quel droit, en fait, tu m'as quelque part arraché à mes parents, tu vois ? Enfin, et puis, de toute façon, t'es pas ma mère, je préfère ma mère, elle est mieux, tu vois.
J'ai jamais eu un enfant qui m'a dit ça. Parce que moi, d'emblée aussi, je leur disais, je ne suis pas ta mère. Et si tu t'en prends à moi, je ne suis pas la bonne cible. Alors, je crois qu'ils avaient bien compris quelle était ma place et que moi, je voulais rien du tout. J'étais là pour, au contraire, les aider à vivre ces années difficiles, parce que faut quand même voir que chaque enfant dit et redit et dira toujours ma mère c'est ma mère, mon père c'est mon père, enfin, il y a les deux, mais c'est souvent la mère, effectivement.
Et quand ils te posent des questions par rapport à leurs parents, parce que je trouve que c'est aussi compliqué de savoir, j'imagine que toi ton rôle c'est quand même de leur donner des repères de ce qui est normal, de ce qu'ils doivent attendre aussi d'un parent. Ils te posent des questions, tu peux pas leur dire oui c'est normal que d'avoir été battu. Donc, et en même temps j'imagine que tu dois pas être dans le jugement de cette famille, hyper compliqué.
Effectivement, difficile. Mais j'ai aussi compris il y a longtemps que toute personne qui avait des difficultés, qui passait par la drogue, l'alcool, la violence, etc., c'était dû à leur passé. On n'est pas tout d'un coup avec ce handicap, je dirais ce handicap grave, on n'est pas tout d'un coup, ils ont une raison. Alors effectivement, ça n'excuse pas tout ça. Mais tout le monde ne peut pas s'en sortir par rapport à leur vécu. C'est pas possible. C'est absolument impossible. Parce que tout le monde n'est pas dans la résilience. Et tout le monde, n'a pas la chance. J'ai rencontré un psychiatre tout à fait par hasard en allant boire un thé la semaine dernière avec qui j'ai beaucoup discuté. Un psychiatre en retraite. Mais il dit, les enfants qui peuvent parler de leur souffrance, qui peuvent dire les choses, c'est ça qui les sauve. Donc, à partir du moment où dans leur famille, il n'y avait pas de dialogue, c'était pas possible, il n'y avait pas tout ça. Dans les foyers, n'y a pas tout ça, où c'est très compliqué. Parce qu'effectivement, les éducateurs du foyer, ils en ont tellement à s'occuper que voilà, c'est pas possible. Alors, ce dialogue qu'ils ont dans les familles d'accueil, en espérant que ce soit souvent comme ça, et ben, quelque part, ça peut les sauver. C'est l'amour qu'on leur donne, même si c'est pas celui de la mère. Mais ça, moi, je leur expliquais.
Je pense qu'en fait aussi, vous êtes des repères, en fait.
Ça, c'est ça.
Et alors, donc ces enfants-là restent un certain nombre de temps, des mois, des années. Le départ, ça doit être compliqué aussi, non ? Pour toi aussi, pour eux d'ailleurs aussi. Mais...
Alors le départ, bah, souvent quand ils veulent partir à 18 ans, parce qu'ils se disent « Oh là là, la liberté, tant mieux, on va faire ce qu'on veut, on va ci, on va ça », eux, ils partent peut-être assez facilement. Moi, pas trop, parce que je gardais lien avec ceux qui voulaient. Donc comme j'ai toujours des liens avec ceux qui voulaient pas, bah tant pis. Et puis ceux qui voulaient pas, bah souvent c'est aussi j'ai pas envie d'avoir de lien, je le dis franchement, parce qu'ils ont continué à reproduire ce qu'ils ont vécu, et ça je le sais. Donc comme ils reproduisent, ou ils sont dans l'alcool, dans la drogue, dans la violence, dans le viol, etc. etc. J'ai pas envie de continuer des liens, donc je n'étais pas voilà, je ne suis pas spécialement triste de tout ça, même si on n'y est pas arrivé, c'est pas du 100% hein, ce qu'on fait.
Ouais, bah justement, c'est une bonne transition. Est-ce que tu t'es déjà senti dépassée par un enfant, c'est-à-dire vraiment pas en capacité de pouvoir l'aider et même toi te sentir pas en danger physiquement, tu vois, mais en danger en tout cas de te dire là, il me déstabilise.
Ah, mais physiquement, ça existe aussi, hein, souvent.
Oui.
C'est-à-dire que quand un enfant est pas d'accord ou se rebelle, il est capable de. Moi, j'ai eu un coup de poing, par exemple. Bon, ben, il est capable d'être violent. Hein.
Ouais, ouais.
Alors, je me suis sentie dépassée avec la jeune fille qui avait ses parents qui étaient contre les familles d'accueil. Parce qu'elle était régulièrement. Comme elle voyait ses parents toutes les semaines, elle était régulièrement remontée par ses parents qui lui disaient « Tu as qu'à faire ça, tu as qu'à faire ça, ils t'enleveront de la famille d'accueil. » Ils étaient à la limite, ils étaient pour les foyers, mais surtout pas les familles d'accueil. Parce que c'était sûrement un couple qui avait l'impression qu'on leur volait leurs enfants, quoi. Et je pense que c'était pour ça. Mais alors effectivement, avec cette jeune fille qui m'en a fait voir de toutes les couleurs, je pense que j'étais dépassée et je me suis dit, bon, là, je peux rien faire. Et je me suis même demandé si j'allais pas la renvoyer, tellement c'était difficile. Un jour, elle avait fait une grosse bêtise. Je suis arrivée, je lui ai donné une tape, j'ai bien dit, sur la main. Mais comme elle était remontée par la famille, on n'a pas le droit de taper les enfants. Ben non, on n'a pas le droit de les taper. C'est une chose qui ne se fait plus. Et une tape sur la main non plus. Ses parents lui avaient dit, si un jour t'es tapé, tu appelles les gendarmes, et c'est ce qu'elle a fait. Donc elle a appelé les gendarmes parce que elle avait eu une petite tape sur la main. Donc elle a dit aux gendarmes qu'elle était battue. Donc à partir de là, il y a une enquête, il y a plein de choses très compliquées. Et à partir de là, elle est partie en foyer. Mais nous, on peut nous enlever notre agrément. Alors heureusement, comme c'est fréquent ce genre de choses, effectivement, ils nous enlèvent pas l'agrément. Alors, ils questionnent les gendarmes, questionnent les autres enfants, les gendarmes questionnent le mari, voilà, vous êtes suspendu pendant 8 jours, enfin, mais c'est des choses qui sont difficiles, qui vous révoltent par rapport à un enfant, mais à la fois, moi, j'ai toujours fait comme ça dans ma tête, j'ai toujours excusé, voilà. Pas de sa faute à cette gamine, voilà.
Mais du coup, ça nécessite d'être super solide dans sa tête. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire tout ça sans attendre de retour.
Ah non, surtout pas attendre de retour. Surtout pas. Bah, quand les enfants réagissent mal, on se dit, bah oui, voilà. Mais on fait pareil avec nos enfants. On dit, avec tout ce que j'ai fait pour eux, je comprends pas. Bah oui, on va le faire avec tous ceux qu'on aime, avec tous ceux à qui on donne quelque chose. Donc voilà, c'est comme ça.
Alors là, on parlait d'échecs, mais à l'inverse, est-ce que tu peux nous raconter, toi, un très beau souvenir ou quelque chose où tu te dis, mais là, franchement, chouette, j'ai pas fait tout ça pour rien.
Ben, effectivement, des bons souvenirs, j'en ai quelques-uns avec tous ceux qui reviennent, et j'ai pas fait tout ça pour rien, parce que quelque part, je sais, même avec ceux que je ne vois plus, par exemple avec cette jeune fille qui a appelé les gendarmes, c'est quand même rien de faire ça. Elle par les réseaux sociaux, elle demande ce que l'on vient, et elle demande des nouvelles des animaux, voilà, auxquels elle était très attachée. Et je me dis, quelque part, elle a des restes dans sa vie d'adulte, puisque maintenant elle est adulte et qu'elle vit sa vie en dehors de sa famille d'ailleurs, parce que effectivement, elle a été vérifiée si elle serait bien dans sa famille, mais ça n'a pas marché. Donc, elle fait, alors comme elle est adulte et puis qu'elle travaille, enfin, de temps en temps, eh bien, elle s'est rendue compte que ça n'irait pas dans sa famille. Alors, elle demande aux autres qui viennent ici, comment ça se passe, où est cet animal-là, est-ce que celui-là est encore vivant? Elle demande, elle dit, ah oui, je sais que j'aurais fait du mal, ah oui, je pense qu'ils ne me pardonneront jamais. Voilà, donc quelque part, c'est ça qui fait plaisir aussi, c'est que non seulement ils s'en sortent, le plus dur, c'est quand on n'arrive pas à ce qui... Enfin, pour moi, hein, je parle en mon nom, hein, je parle pas au nom des autres. Le plus dur pour moi, c'est quand on n'arrive pas à ce qui ne repro, il faut pas qu'ils reproduisent. Alors on se dit là, là on n'a pas su, on n'a pas pu. Mais il y a vraiment des bons souvenirs avec tous, des moments où on a senti qu'on leur apportait quelque chose.
Ouais, quelle que soit leur réaction, ouais, qu'ils continuent de prendre des nouvelles ou pas, qu'ils restent en contact, en fait, oui, tu sais que tu leur as permis à un moment donné, t'as laissé une trace dans leur vie.
Ou ce qu'ils ont eu aussi comme, je dirais, chance. Non, oui, chance par rapport peut-être à ce qu'ils n'auraient pas vécu dans leur famille, qui leur a permis, par exemple, de faire, nous, on leur a permis de faire des sports, du cheval, des choses voilà, qu'ils n'auraient peut-être jamais eu, les emmener en vacances, les découvrir, je sais pas, je dis n'importe quoi, la mer, bah oui, on a une, oh, mon rêve, c'est d'aller à Paris. Bon, ben bah, voilà, on l'a emmené à Paris. Bon, bah, peut-être qu'elle n'aura jamais été à Paris de sa vie. Bah, ça, je pense que c'est aussi des restes qui font plaisir. Hein.
Et puis moi, je me dis aussi qu'il y a une valeur d'exemple aussi. Quelque part, je pense qu'ils devaient te voir vivre avec ta propre famille, ton mari, tes enfants. Et je pense aussi que c'est important pour eux d'observer comment une cellule familiale fonctionne quand tout se passe normalement. Rien que ça, je pense que c'est important.
Tout à fait. Oui. Parce que l'exemple, ben effectivement, moi je leur disais, ben écoute, tu vois, dans notre famille, tu ne nous entends pas, c'est possible, tu ne nous entends pas se battre, tu ne nous entends pas faire des histoires, tu ne nous entends pas, il n'y a pas de violence. Donc voilà, tout ça c'est des exemples, ben oui, ça c'est certain.
Et du coup, bon, on a beaucoup parlé de ce que tu as pu apporter à ces enfants, mais moi j'aimerais bien savoir ce que toi, tu considères que ça t'a apporté dans ta vie.
En fait, comme j'ai fait ce métier-là par rapport à ce que, enfin pour moi, c'est pas, bien sûr, hein, là on parle bien comme on nom. Hein, et donc, comme j'ai fait ce métier-là par rapport à ce que moi j'avais vécu, ça m'a apporté beaucoup de choses parce que, en fait, j'ai évolué avec les enfants. Enfin, j'ai évolué sur ma façon de réagir par rapport à ce que j'ai eu, ce que j'ai subi, et c'est formidable, voilà. On a évolué, je dirais, ensemble. Et puis aussi, je les ai compris aussi par rapport à ce que j'ai vécu. Et en fait, comme moi, j'ai trouvé au fur et à mesure de l'apaisement, je leur ai aussi communiqué, essayé de communiquer, de leur dire qu'il fallait qu'ils soient apaisés par rapport à leur passé. Et ça, c'est grâce à eux. Parce que si je ne les avais pas eus, voilà, j'aurais pas connu ça, tout simplement.
Ouais, donc eux-mêmes, ils t'ont permis de grandir aussi, quoi, d'évoluer, de grandir.
Tout à fait. Je ne sais pas si sans eux, j'aurais grandi de la même façon ou j'aurais pas grandi du tout. Je ne sais pas.
Et est-ce que ça a changé aussi ta vision de la parentalité, de la famille? Est-ce que tu, voilà, t'as une autre vision?
Bah, si j'avais 20 ans aujourd'hui,
Ouais.
oui, mais je pense que tout être humain est comme ça. Toutes les expériences qu'on a vécues, Si on avait une deuxième vie ou si on recommençait le métier, par exemple, aujourd'hui, il y a des choses que je ferais différemment.
Comme quoi ?
Je les protégerais un peu moins, parce qu'en fait, je les ai tellement protégées que c'en est un qui m'a expliqué, un garçon qui m'a expliqué ça. En fait, tu avais tellement peur qu'on fasse n'importe quoi ou des bêtises, tu t'arrangeais pour qu'on sorte pas et qu'on reste toujours. Alors eux, ils disaient, en famille, qu'on reste ensemble. Et c'est vrai. Alors je crois qu'effectivement, je les couvrais moins. Et ça, c'est pas toujours bon, même pour ses propres enfants, de toujours protéger.
Tu dirais que c'est quoi ta plus grande fierté ou tes joies et ou tes fiertés d'avoir effectué ce métier ?
Ma fierté, non, je vais pas dire que c'est ma plus grande fierté. J'ai fait ça parce que... Non, mais ma fierté, je sais pas. Ma plus grande fierté, c'est qu'ils soient pas tombés aussi mal que leurs parents sont tombés. Bon, sauf vraiment, il y en a un qui a reproduit systématiquement ce qu'il avait vécu. Ça, c'est triste, mais bon, voilà.
Et tu dirais que pour faire ce métier, il faut avoir quoi comme qualité ?
Oh, énormément de patience. Je pense que si on n'a pas de patience, on peut pas. Parce que tout de suite, c'est tout vient dramatique. Alors que si on a de la patience, on passe par le dialogue et c'est complètement différent.
Effectivement, ce que j'ai pu lire, c'est effectivement avoir aussi beaucoup de qualité de communication, de sens de l'écoute.
Tout à fait.
Et puis, je pense qu'il y a aussi ne pas vouloir s'arrêter sur un schéma, en fait, que les enfants, ils rentrent dans ton schéma. Non, ils ont le leur avec leur propre histoire. Donc, c'est aussi comprendre ce qu'ils sont pour s'adapter quand même un peu à eux, quoi.
Ah ben, il faut s'adapter, oui. Il faut s'adapter à leur souffrance, qui se manifeste d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça aussi que les formations, elles sont importantes. Et puis, après, c'est là où je dis qu'il faut de la patience, parce que même avec une formation, est-ce qu'on peut supporter? Ou est-ce qu'on doit supporter ?
Alors après, j'imagine que vous n'êtes pas lâché dans la nature et que vous travaillez en équipe, vous travaillez avec d'autres corps de métier, non ? Des travailleurs sociaux, des psychologues, etc.
Alors moi, j'ai pas mal été à des stages, parce que j'aimais bien ces stages de groupe avec des psys, avec des éducateurs, etc. Au début... Et puis après, les éducateurs sont présents ou pas présents, c'est-à-dire qu'il y en a, on les voit toutes les semaines, ou il y en a, ils ont pas le temps, et là, c'est, on les voit beaucoup moins souvent. Mais moi, ça m'a pas dérangé. Par contre, j'ai des collègues qui, régulièrement, le moindre petit problème, mais je dis le moindre petit problème, elle appelait l'éducateur. Moi, jamais. Jamais. Je me sentais capable, je me sentais capable de gérer. Tout simplement. Alors, on n'est pas lâché dans la nature, effectivement, mais bon, faut savoir que on n'a pas non plus comme ça tout de suite la réponse à tout et quelqu'un qui peut nous aider, hein.
Je te remercie énormément, Brigitte, pour tout ce que tu nous as raconté de ton métier que je trouve très noble. Est-ce que pour terminer, tu sais, je t'avais posé une petite question sur le fait de me lancer le défi de partir à la découverte d'un autre métier. Est-ce que tu as pu y réfléchir ?
Alors moi, un autre métier que j'aurais bien voulu exercer, ça va te faire rire, vraiment rire. C'était être cantatrice dans un opéra en tant que dans un pas soprane, hein, cantatrice avec tous les groupes, avec le groupe, voilà.
Ah, genre une choriste, c'est ça ?
Une choriste dans un opéra, voilà.
C'est rigolo, pas mal, ça. Ok, très bien. Ok, voilà. Et ben en voilà un beau défi, ça me plaît énormément, donc c'est parti. Et ben Brigitte, vraiment merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps. Je te remercie puis je te souhaite un très très bon week-end, Brigitte.
Merci, toi aussi, bon week-end.
J'espère sincèrement que cet épisode vous aura permis de découvrir plus en détail ce métier qu'on pense tous un peu connaître déjà, sans en avoir toujours une vision très réaliste. Si vous voulez vous assurer de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, si vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas le petit bonus 5 étoiles qui nous fait toujours plaisir. Pour me lancer le défi de dénicher un métier qui vous inspire, c'est simple. Il suffit de me laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine.